Et voici le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Quand les diplomaties de l'Europe de l'Est regardent vers Israël, pour la première fois, une réunion du groupe de Visegrad réunissant Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie va se tenir à Jérusalem aujourd'hui et demain. Illustration de nouvelles dynamiques au sein de la diplomatie européenne qui ne peuvent toutefois pas si facilement faire abstraction de l'histoire.
Et puis aux États-Unis, de nouvelles révélations autour de Donald Trump et de l'enquête russe Andrew McCabe. Ancien haut responsable du FBI s'est exprimé longuement hier soir sur la chaîne de télévision CBS, jetant une nouvelle fois une lumière crue sur le fonctionnement des services de la Maison-Blanche, correspondance de Loïc Coulouri.
En France, la sortie du film de François Ozon sera-t-elle retardée par la justice? C'est ce que demandent les avocats du père Prena, poursuivi pour pédophilie et dont l'histoire a inspiré le long métrage. Ils arguent que leur client n'a pas encore été jugé. Alors, la présomption d'innocence peut-elle être opposée au réalisateur ou risque-t-on une censure bête et méchante? Éclairage de Jean-François Deniau dans ce journal.
Quelle marge de manœuvre pour le gouvernement français dans le dossier de l'usine Ford? Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, reçoit aujourd'hui l'intersyndicale qui va lui demander d'agir sur les commanditaires susceptibles d'assurer un avenir aux repreneurs. Explication de Marie Viennot.
À 7h15, Guillaume, la question du jour.
Manifestation, qu'est-ce qu'un usage disproportionné de la force? On posera la question à Ariel Colonomo, s'il est directeur de recherche au CNRS.
Une première pour le groupe de Visegrad ou V4 qui va délocaliser pour la première fois un de ses sommets, pas n'importe où. Les plus hauts responsables polonais, hongrois, tchèques et slovaques ont rendez-vous à Jérusalem où ils seront reçus par Benjamin Netanyahou. Une première qui illustre les tentatives du premier ministre israélien de se rapprocher des pays de l'Europe de l'Est pour renforcer avec eux des liens notamment économiques. Peut-être aussi dans l'espoir d'enfoncer un coin en Europe sur les questions par exemple relatives à la Palestine ou à l'Iran. Le problème c'est que le plan ne se déroule pas exactement comme prévu. Hier, à la veille du début de cette réunion, le premier ministre polonais a annulé sa visite en raison de propos tenus la semaine dernière par Netanyahou depuis Jérusalem. Les explications de Marie Semelin.
Des Polonais ont collaboré avec les nazis. C'est la phrase qu'aurait dite Benjamin Netanyahou devant des journalistes israéliens, car beaucoup ici s'inquiètent de son indulgence face à un gouvernement polonais régulièrement accusé de réécrire l'histoire du nazisme en se présentant uniquement comme sa victime. Devant la colère de Varsovie, Israël plaide alors un malentendu de traduction. Le Premier ministre a parlé de certains Polonais, pas de la nation polonaise dans son entier, insuffisant pour le pays qui envoie son ministre des Affaires étrangères à Jérusalem au lieu de son chef de gouvernement. Mais ce premier sommet de Visegrad hors Europe reste un grand succès diplomatique pour le gouvernement israélien. En venant à Jérusalem, le groupe du V4 reconnaît la ville comme capitale d'Israël à contre-pied de la diplomatie européenne et il a déjà réussi à bloquer une déclaration commune de l'Union européenne visant à condamner le déménagement de l'ambassade américaine dans la ville sainte. Les priorités du V4 sont alignées sur celles de l'État hébreu comme la sécurité et la sauvegarde des frontières. Israël sait qu'il peut compter sur ses alliés pour le défendre en Europe. Mais cette brouille lui rappelle le prix à payer de petits arrangements avec l'histoire.
Marie Semelin, alors ces bonnes relations entre les pays de l'Europe de l'Est et l'État hébreu peuvent-elles être remises en cause? Comment la situation est-elle perçue en Israël? Question posée à Richard Amsalem, membre du comité central du Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou, par Audrey Tison.
On essaye en Israël d'être orienté vers le futur, d'identifier en Europe les éléments positifs qui peuvent aider Israël et qu'Israël peut faire profiter de son avancée technologique, par exemple. Et évidemment, on ne peut pas se déconnecter du passé, ce dossier de la Shoah et du comportement des populations européennes pendant la Shoah. Donc c'est un dossier qu'on essaye de résoudre, ça va prendre encore beaucoup d'années. On a aussi beaucoup de personnes autour avec certains intérêts qui sont là pour être aux aguets à chaque fois qu'il y a une certaine déclaration d'un leader israélien pour essayer de semer peut-être l'embrouille entre Israël et ses nouveaux associés. Je ne sais pas si cette nouvelle relation entre Israël et les pays de l'Alliance Visegrad peut être considérée comme une concurrence au niveau peut-être économique par les pays d'Europe occidentale. Je crois que Benjamin Netanyahou représente bien le peuple israélien. D'un côté, il n'est pas prêt à évidemment effacer le passé. Il est prêt à faire preuve de patience pour aider le peuple polonais à faire cette thérapie du passé.
Les propos recueillis par Audrey Tison, la réunion du groupe de Visegrad à Jérusalem est prévue pour durer 2 jours.
7h05, la suite sur France Culture du journal de Benoît Bouscarel. En Syrie, les combats font toujours rage autour de Baghouz, entre les forces arabo-kurdes et les derniers combattants du califat de l'organisation État islamique.
Et à 7h24 d'ailleurs, reportage à suivre, tourné sur place par Étienne Monin. Et au son des derniers assauts militaires sur Daesh, la question lancinante revient une nouvelle fois hanter les capitales européennes. Que faire des djihadistes capturés? Hier, Donald Trump a troublé la diplomatie occidentale en demandant aux Européens de tout faire pour rapatrier leurs ressortissants, actuellement souvent détenus par les Kurdes, prisonniers qui, à défaut d'un rapatriement d'après le président américain, seront libérés et se retrouveront dans la nature. La question qui a marqué hier la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne sera également au menu des discussions entre ministres des Affaires étrangères de l'UE qui se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles. Aux États-Unis, un témoignage très important est désormais public sur les modes de fonctionnement, disons, particuliers de l'administration Trump et de la Maison-Blanche. Il provient, ce témoignage, d'Andrew McCabe, ancien haut responsable du FBI, qui s'est exprimé longuement hier soir sur la chaîne de télévision américaine CBS, faisant au passage de nouvelles révélations sur l'enquête russe en cours dans l'entourage du président américain. À New York, Chloé Glory.
Donald Trump dénonçait encore une chasse aux sorcières il y a quelques heures sur Twitter. L'enquête russe autour d'une possible collusion entre le président américain et Moscou n'en finit pas d'agiter sa présidence. Andrew McCabe se souvient du climat pourri qui imprègne la Maison-Blanche lorsqu'il prend la tête du FBI.
Je ne peux pas décrire avec assez de précision la pression et le chaos sous lesquels Rod et moi nous tentions de travailler à cette époque. C'était incroyablement mouvementé. Et il est clair que ce stress pesait sur le procureur général adjoint.
Rod Rosenstein, c'est de lui qu'il s'agit, numéro 2 de la justice, serait allé jusqu'à proposer de porter un micro lors de ses entretiens avec Donald Trump.
Il disait « Je ne suis jamais fouillé lorsque je vais à la Maison-Blanche. Je pourrais facilement porter un micro, il ne s'en rendrait pas compte. » Il ne plaisantait pas, il était parfaitement sérieux. Et il a même apporté le dispositif par la suite lors d'un entretien.
Autre idée soulevée par Rod Rosenstein, selon McCabe, le 25e amendement, il permettrait au cabinet du président de déclarer Donald Trump inapte à ses fonctions. Nous avons compté les têtes de nos possibles soutiens, affirme McCabe.
Les soutiens évidents ou les possibles soutiens. Le procureur général adjoint était sans aucun doute très inquiet à propos du président, à propos de ses capacités et de ses intentions à ce moment.
Mais l'ex-haut responsable du FBI n'est pas resté assez longtemps pour connaître la fin de l'histoire. Il a été limogé 26 heures avant sa retraite officielle.
5 députés européens ont été refoulés hier à la frontière vénézuélienne. Caracas leur a refusé l'entrée sur son territoire en les accusant d'avoir des visées conspiratrices. L'opposant Juan Guaido a critiqué cette expulsion qu'il a qualifiée d'irrationnelle. Journée décisive pour le lancement en France du film « Grâce à Dieu » de François Ozon. La sortie prévue mercredi de ce long métrage inspiré de l'affaire Bernard Prénat pourrait être retardée par la justice. Les avocats du prêtre lyonnais, qui est poursuivi dans le cadre d'une affaire de pédophilie, rappellent que leur client est toujours présumé innocent. Son procès n'a pas eu lieu, il est prévu pour la fin de l'année. Et ils reprochent à François Ozon d'être allé en quelque sorte plus vite que la justice. Le réalisateur qui a reçu ce week-end le prix du jury du Festival du film de Berlin attend maintenant la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui pourrait décaler la sortie de Grâce à Dieu. Jean-Philippe Degnaud.
Une telle décision serait quasi inédite. Seule la sortie des Noces Rouges de Claude Chabrol avait été décalée de 2 semaines en 1973 sur décision du juge administratif, le temps d'attendre la fin du procès des amants diaboliques de la Creuse. Mais dans le cas de Grâce à Dieu, ce serait un délai de plusieurs années qui s'imposerait à la sortie du film jusqu'à ce que le père Prénat soit définitivement jugé. Autant dire que le film serait mort, ont plaidé les avocats du producteur et du distributeur en évoquant les millions d'euros perdus si Grâce à Dieu ne sortait pas en salle dès après-demain. Ce serait donc là une forme de censure pour François Ozon. Mais face à cette atteinte à la liberté de création, se dresse un principe fondamental du droit, la présomption d'innocence, qui s'applique même quand un suspect, en l'occurrence le père Prénat, a reconnu les faits. Et si le tribunal des référés de Paris décide tout à l'heure de ne pas donner droit aux demandes de report du film, ce jugement signifiera dorénavant que tous les créateurs de fiction peuvent réaliser des œuvres s'inspirant de la réalité avant même que la justice se soit prononcée.
La décision sera rendue cet après-midi à 16h.
7h09, la suite des matins avec le journal de Benoît Bouscarel pour Agnès Buzyn. La ministre de la Santé, les manifestations des Gilets jaunes doivent maintenant s'arrêter.
Au lendemain d'un week-end marqué à la fois par la décrue du mouvement des Gilets jaunes et de nouvelles violences, Agnès Buzyn estime que les Gilets jaunes se sont radicalisés. Allusion aux insultes dont a été victime Alain Finkielkraut samedi en marge du cortège parisien de l'acte 14. Dans ce dossier et dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, un homme a été identifié comme l'un des auteurs des insultes. Et puis, à la veille de rassemblements prévus demain contre l'antisémitisme en France, des députés issus de différents groupes politiques s'apprêtent à proposer à l'Assemblée nationale une résolution ou une proposition de loi pour que l'antisionisme soit reconnu comme un délit, au même titre que l'antisémitisme, information donnée ce matin par nos confrères de France Info. Comme dans les prolongations d'un match de foot, on attend la passe miraculeuse. Ces mots sont de Jean-Michel Caille, délégué CFE-CGC de l'usine Ford de Blanquefort, 850 salariés. Aujourd'hui, il sera avec les autres représentants syndicaux de l'usine à Bercy pour une rencontre avec Bruno Le Maire. Après l'annonce il y a déjà plusieurs mois de la fermeture de l'usine, l'intersyndicale demande toujours une intervention de l'État, notamment pour aider le repreneur. C'est la fameuse passe miraculeuse demandée par les syndicats. Passe qui viendrait dans les prolongations d'un match déjà marqué par de nombreuses actions. Marie Viennot.
C'est en 1972 que Ford installe son usine de boîtes automatiques à Blanquefort, près de Bordeaux. En 2000, l'usine est à son apogée et emploie 3600 personnes. Mais en 2007, Ford décide de la fermer. Le constructeur américain la cède alors à un repreneur dont le projet échoue au bout d'un an. Les pouvoirs publics interviennent donc et font pression sur Ford qui, après de longs mois de négociations, accepte de reprendre l'usine et de conserver 1000 emplois pendant 5 ans en échange de 25 millions d'euros d'aide publique. 5 ans plus tard, exactement, Ford annonce à nouveau sa volonté de fermer l'usine de Blanquefort. Bercy suit alors le dossier via sa délégation aux restructurations d'entreprises. Un repreneur est recherché, trouvé, mais Ford le refuse en décembre dernier. Les pouvoirs publics rejoignent alors syndicats et salariés dans leur indignation. Le ministre des Finances va jusqu'à proposer que l'État rachète temporairement l'usine à Ford si cela peut contribuer à sa reprise. Villes, départements et États sont prêts à mettre de nouveau plus de 15 millions d'euros sur la table et la Direction régionale du travail refuse le plan social présenté par Ford pour gagner du temps. Mais en dépit de tous ces efforts, il manque toujours un élément clé pour sauver l'usine, des clients pour ce qu'elle continuerait à produire. Bruno Le Maire viendra-t-il aujourd'hui avec des engagements de Renault, PSA ou d'autres constructeurs ? Ce serait la seule annonce qui vaille pour les syndicats. Mais Bercy a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas d'annonce à l'issue de cette rencontre. Le sort de l'usine de Blanquefort risque donc de rester encore longtemps incertain.
Marie Viennot, la météo, légère dégradation sur le nord-ouest et le Languedoc-Roussillon aujourd'hui, partout ailleurs du beau temps après dissipation des brouillards matinaux et des températures toujours un peu suspectes pour un 18 février, jusqu'à 17 degrés pour les maximales cet après-midi.